filles, 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Sophie Pouzrat, à la une, les appels au calme à l'international face aux affrontements entre l'Inde et le Pakistan.
Islamabad a frappé le territoire indien ce matin en réponse aux missiles qui ont visé trois de ses bases militaires cette nuit. On fera le point sur la situation. Ils sont arrivés à Kiev, les quatre dirigeants britanniques, français, allemands et polonais. Ils sont en visite pour redire leur soutien à leur allié et pour appeler Moscou à accepter un cessez-le-feu de 30 jours. À la une également, les premiers pas de Léon XIV en tant que souverain pontife. L'élection du nouveau pape suscite des attentes à Madagascar, où la population espère qu'il s'engagera pour la défense de l'environnement, comme l'avait fait son prédécesseur François.
Situation extrêmement tendue ce matin entre l'Inde et le Pakistan.
Un nouveau palier a été franchi dans les affrontements. Cette nuit, l'Inde a frappé trois bases militaires pakistanaises et Islamabad a riposté ce matin en visant le sol indien avec des attaques de drones. La Chine appelle fermement les deux parties à éviter l'escalade, tout comme les États-Unis qui exhortent l'Inde et le Pakistan à rétablir un dialogue pour, je cite, éviter une erreur de calcul. C'est la pire confrontation entre ces deux puissances nucléaires depuis plus de 20 ans. Elle a déjà tué une cinquantaine de civils des deux côtés de la frontière que les deux pays se disputent. Les explications de notre correspondant à Bangalore, Combastin.
En réaction à une nouvelle nuit d'affrontements, le porte-parole de l'armée pakistanaise a annoncé une large opération de représailles. Lancée ce matin, elle aurait notamment détruit une base aérienne et un dépôt de missiles. L'armée indienne a confirmé avoir été de nouveau attaquée, notamment par des drones. Les vérifications indépendantes sur les frappes entre les deux pays sont difficiles. Côté indien, on affirme que plus tôt déjà, 5 personnes ont trouvé la mort sous les tirs d'artillerie, dont un officiel de haut rang. Des attaques de drones pakistanais ont aussi eu lieu dans 26 zones frontalières, occasionnant un blessé. Les drones auraient aussi ciblé l'aéroport de Srinagar, la capitale du Cachemire. L'Inde reconnaît avoir visé et endommagé plusieurs bases aériennes du Pakistan durant la nuit. Deux explosions ont retenti dans la région d'Islamabad, non loin du siège de l'armée et des renseignements. Aucun signe d'apaisement entre New Delhi et Islamabad. Au contraire, on assiste à une escalade telle que les médias n'hésitent plus à parler de guerre. De nombreux pays ont une nouvelle fois appelé à la désescalade et proposé leur médiation. Combastin, Bangalore, RFI.
Quatre dirigeants européens sont arrivés ce matin à Kiev pour afficher leur soutien à leur allié. Le français Emmanuel Macron, l'allemand Friedrich Merz, le britannique Keir Starmer sont arrivés en train. Après un voyage de nuit, ils ont rejoint le polonais Donald Tusk. Et tous les quatre renouvellent leur soutien à l'Ukraine et se calent sur la foulée des États-Unis en appelant Moscou à un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours. Dans une déclaration commune, ces membres de la coalition des volontaires disent vouloir maintenir la pression sur la machine de guerre russe jusqu'à ce qu'une trêve soit conclue. Et le président français Emmanuel Macron lui appelle à des discussions directes entre Kiev et Moscou. En parallèle, la France va mobiliser les revenus tirés des avoirs russes gelés pour assurer la maintenance des canons César qu'elle a livrés à Kiev. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le chef de la diplomatie française depuis Lviv dans l'ouest de l'Ukraine. Face au possible désengagement américain, les Européens redoublent donc d'efforts pour soutenir Kiev. Franck Alexandre.
Depuis le début du conflit, le débat est vif en Europe. Faut-il saisir pour les donner à l'Ukraine les quelques 235 milliards d'euros russes gelés par les Occidentaux et dont la majorité se trouve sur le vieux continent? Cela contreviendrait au droit international, a toujours fait valoir la Commission européenne. Mais puisque le diable se niche dans les détails, l'Union européenne, en mars dernier, a trouvé une solution légalement plus acceptable. Si on ne touche pas au crédit, on peut en revanche puiser dans les intérêts perçus. 1 milliard d'euros dans un premier temps sera donc débloqué. Paris, qui a pris la tête de la coalition artillerie pour l'Ukraine, compte utiliser cette ligne budgétaire pour financer notamment l'entretien des canons César. La France a livré une 60aine d'exemplaires de ces pièces d'artillerie, dont les tubes, par exemple, doivent être changés tous les 8000 coups. L'annonce intervient aussi le jour du défilé du 9 mai sur la place Rouge à Moscou, une parade pensée comme un outil de propagande par le Kremlin. En réponse, l'Europe affiche donc sa détermination et le fait savoir, surtout face aux réticences américaines à soutenir plus longtemps l'Ukraine.
Les explications de Franck Alexandre.
Il fait ses premiers pas en tant que pape.
Léon XIV, qui a célébré hier sa première messe en tant que chef de l'Église devant l'ensemble des cardinaux dans la chapelle Sixtine. Demain, il fera sa deuxième apparition, place Saint-Pierre, pour la très attendue et traditionnelle prière dominicale depuis la fenêtre de la basilique. À Madagascar, l'élection du pape suscite des attentes au sein de l'influente église catholique. Les fidèles malgaches espèrent que le nouveau souverain pontife restera dans la voie tracée par son prédécesseur, François. Lors de son passage à Madagascar en 2019, ce dernier avait pointé l'urgence de préserver la maison commune en référence à la grande biodiversité de l'île, aujourd'hui menacée. Son engagement pour l'environnement avait fait date, mais les pratiquants ont aussi d'autres attentes. Pauline Le Troquier a assisté à une séance de prière dans une paroisse d'un quartier populaire d'Antananarivo.
Une centaine de voix d'enfants résonnent ce matin dans l'église. Dans leur chant, les jeunes fidèles implorent la protection de la Vierge Marie. Et le message n'est pas anodin. Sur l'île, la puissante communauté catholique se sent menacée par la prolifération de mouvements évangéliques, une tendance encouragée depuis une dizaine d'années par la pauvreté. Floria, catéchiste de la paroisse, espère que Léon XIV saura unifier l'église à Madagascar.
Les autres églises nous détestent beaucoup. Les sectes. Parfois dans ces églises, il y en a des aides, des matières premières pour attirer les gens chez eux. Et puis toutes les églises sont déstabilisées avec ça.
Père Marcelot, lui, attend du souverain pontife le même engagement que son prédécesseur pour l'environnement. Alors que le tracé de la première autoroute du pays menace ses dernières forêts primaires, la question est selon lui plus que jamais d'actualité.
L'autoroute, hein, on a besoin de ça pour communiquer. Mais l'environnement, c'est le poumon de Madagascar. Espérons qu'avec le pape Léon XIV, ce soit un gardien toujours de l'environnement.
Les fidèles espèrent que Léon XIV continuera à être un pape proche des pauvres dans un contexte où l'église malgache peine à faire entendre ses critiques de la situation socio-économique. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Et si l'élection de Léon XIV réjouit les uns, elle déclenche les critiques des autres. Des ONG pointent son silence sur des affaires de violence sexuelle au sein de l'église par le passé, quand il était évêque du diocèse péruvien de Chiclayo entre 2015 et 2023, puis pendant ces deux dernières années au Vatican. Dans un communiqué, deux ONG de défense des victimes indiquent qu'il a supervisé les dossiers instruits contre des évêques accusés d'agression sexuelle et de dissimulation, et qu'il a maintenu le secret sur ses procédures, ne dévoilant aucun nom ni aucune information. Le successeur du nouveau pape à Chiclayo, au Pérou, dénonce, lui, une polémique visant, je cite, à discréditer le souverain pontife.
Des représentants de la Chine et des États-Unis vont s'asseoir autour d'une même table aujourd'hui et demain en Suisse.
Les deux parties vont tenter de trouver une issue à leur guerre commerciale. Hier, Donald Trump a posé les jalons des négociations en apaisant le ton. Il a suggéré de baisser à 80% les droits de douane punitifs sur les produits chinois. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Donald Trump a imposé en plusieurs vagues une surtaxe d'un montant total de 145% sur les marchandises en provenance de Chine, ce qui a provoqué des représailles équivalentes de la part de Pékin. Alors ces discussions doivent mener à une désescalade, mais la Chine veut quand même montrer qu'elle est en position de force, Nathanaël Vitran.
S'estimant victime d'une agression injuste, Pékin a joué la montre avant d'accepter de négocier. Le vice-premier ministre chinois qui fait le déplacement en Suisse a d'ailleurs tenu à préciser que ces discussions ont lieu à la demande des États-Unis. La Chine sait que le temps joue en sa faveur, que les États-Unis dépendent d'elle pour de nombreux produits et que la situation ne pourra qu'entraîner une inflation aussi forte qu'impopulaire dont les premiers effets ne vont pas tarder à se faire sentir pour le consommateur américain. Pour autant, Pékin ne peut pas se permettre non plus d'abandonner complètement le marché américain alors qu'elle y a exporté pour près de 440 milliards de dollars de produits en 2024 et qu'elle fait face à un ralentissement de sa croissance que les mesures de relance du Parti communiste chinois au pouvoir peinent à enrayer. Il ne faut pas s'attendre ce week-end à un grand accord commercial, a prévenu Scott Bessent, le ministre de l'économie qui représentera Washington. Reste que la pression monte alors que le délai que s'est fixé Donald Trump pour négocier avec les partenaires des États-Unis avant une reprise des nouvelles taxes douanières arrivent à expiration le 8 juillet.
Les explications de Nathanaël Vitran.
On reste dans l'actualité américaine avec cette annonce qui ressemble à un pied de nez à l'administration Trump.
Le milliardaire Bill Gates a déclaré qu'il donnait l'essentiel de sa fortune restante à sa fondation de lutte contre la pauvreté et la maladie dans le monde. Le philanthrope américain, fondateur de Microsoft, s'en prend au passage un autre leader de la tech, Elon Musk, l'un des proches du président américain. Anne Verdaguer revient sur cette annonce.
Bill Gates donne une interview bilan dans les colonnes du New York Times. Sa fondation a 25 ans et elle s'éteindra dans 20 ans, annonce-t-il. La Gates Foundation a donné 100 milliards de dollars à travers le monde pour financer des grandes institutions comme l'Organisation Mondiale de la Santé, mais aussi lutter contre des maladies infectieuses et accélérer la vaccination dans de nombreux pays à destination principalement d'enfants atteints de maladies mortelles. Des millions de vies ont été sauvées, estime le philanthrope américain qui fustige la nouvelle administration Trump, en particulier Elon Musk, qui selon lui est impliqué dans la mort des enfants les plus pauvres de cette planète avec les réductions drastiques du programme USAID. Bill Gates ne mâche pas ses mots et s'engage à dépenser via sa fondation plus de 200 milliards de dollars d'ici 2045 avec trois priorités, la lutte contre la mortalité infantile, les maladies comme la polio ou la malaria, mais aussi l'éducation. Les gens diront beaucoup de choses à mon décès, dit-il pour conclure, mais je suis résolue à ce que Il est mort riche ne soit pas l'une d'entre elles.
Anne Verdaguer. En Équateur à présent, des dissidents des FARC ont tué 11 militaires équatoriens hier alors qu'ils menaient une opération contre une mine illégale dans la forêt amazonienne. C'est l'armée équatorienne qui l'a annoncé, faisant aussi état d'un blessé dans le bilan de l'attaque.
Dans l'actualité également, le meurtrier d'Aboubacar Cissé transféré en France.
Les autorités italiennes l'ont remis à la justice française hier. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire dans la foulée. Il est accusé d'avoir tué le jeune malien il y a 2 semaines dans une mosquée du sud de la France. Il s'était enfui en Italie avant de se rendre de lui-même à la police et est poursuivi pour assassinat à raison de la race ou de la religion.
Et puis Sophie, du sport pour terminer.
En football, la saison de Ligue 1 approche de son dénouement à la 33e et avant-dernière journée se dispute ce samedi. Tout le monde joue à la même heure, 19h, temps universel. Et si le Paris Saint-Germain est champion de France depuis déjà un moment, le suspense reste entier pour l'attribution des tickets européens. La soirée devrait permettre d'y voir enfin plus clair, Christophe Diremzian.
6 équipes en course pour 2 places directes encore disponibles et un strapontin. Rarement le casting français pour la prochaine Ligue des Champions n'aura été aussi flou à 2 journées de la fin. Derrière un PSG tellement peu concerné par ce week-end qu'il laisse 7 cadres au repos pour laisser les doublures aller se faire les dents chez le relégué Montpellier. C'est surtout le duel Monaco-Lyon qui fixe l'attention. Les joueurs du Rocher, 3e, accueillent l'OL, 7e, et sur le fil du rasoir, obligés de l'emporter pour s'accrocher à un minuscule espoir de retour dans l'élite européenne, gage de rentrée d'argent conséquente pour éloigner la menace d'une rétrogradation administrative provoquée par ses lourds déficits. Marseille, désormais adepte des mises au vert en Italie pour se concentrer davantage sur ses objectifs que sur ses querelles internes, va défendre son rôle de dauphin des Parisiens chez le barragiste Le Havre, tandis que le trio Nice-Lille-Strasbourg, à égalité de points entre la 4e et la 6e place, devra aller chercher ses points pour l'Europe à l'extérieur, respectivement à Rennes, Brest et Angers. En bas de tableau, Saint-Étienne, 17e et en grand danger de descente, lance l'opération de la dernière chance à Reims.
Les précisions de Christophe Diremzian.
Et le journal signé Sophie Pouzrat. Merci beaucoup. RFI Matin, 3e et dernière heure. Dans un peu plus d'un quart d'heure, un nouveau point sur l'info africaine et l'avertissement du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, qui évoque une aggravation de la faim en Afrique de l'Ouest et centrale, des besoins records, une situation qui risque encore d'empirer dans les mois à venir. Vous entendrez le porte-parole du PAM à 7h30, temps universel. À suivre d'ici là, notamment, bienvenue dans le Game et le report de la sortie de GTA 6, le jeu le plus attendu au monde, qui pourrait aussi changer la face de l'industrie, c'est ce que nous dit Jennifer Lufaux. Mais tout de suite, c'est la revue de presse. Avec vous, Catherine Potet, à la une aujourd'hui, l'escalade entre l'Inde et le Pakistan.
C'est une photo publiée par le journal Le Monde, celle d'une femme en pleurs qui porte un petit garçon dans ses bras. Elle a été évacuée, nous dit le quotidien français, à la suite d'une montée des tensions frontalières dans le village de Avelian au Pakistan, près d'un poste frontière indo-pakistanais. Pour Le Monde, c'est un fait. L'escalade s'intensifie entre l'Inde et le Pakistan et laisse penser que les deux ennemis sont entrés dans leur 4e guerre. En Inde, ajoute le journal, la population commence à paniquer, notamment en raison de rumeurs et de fausses nouvelles propagées sur les réseaux sociaux, laissant croire à des pénuries de produits indispensables. Le ministre de l'Alimentation et de la Consommation a dû intervenir pour assurer que le pays dispose de stocks suffisants. Les deux belligérants s'inquiètent par ailleurs. Le quotidien français sont sourds aux appels de la communauté internationale. Ils sont depuis le 7 mai engagés dans une escalade militaire de plus en plus pénible. périlleuse. Inquiétude partagée par le New York Times, notamment, qui s'alarme de cette forte escalade entre les deux voisins dotés de l'arme nucléaire.
Autre conflit à la une, Catherine, la guerre en Ukraine.
Alors que le Britannique Keir Starmer, le Français Emmanuel Macron et le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz se sont arrivés ce matin à Kiev pour rencontrer et soutenir le président Volodymyr Zelensky, le journal Le Temps publie un long reportage sur ce qu'il appelle la fantastique résilience du réseau électrique ukrainien. L'Ukraine, nous dit le quotidien suisse, a passé l'hiver en maintenant l'approvisionnement du courant malgré les nombreuses attaques russes sur ses infrastructures civiles. Comment expliquer cette prouesse? Elle est due à une combinaison de facteurs, explique Le Temps, qui en fait la liste. Le courage des ouvriers, les systèmes de défense antiaérien, la multiplication des transformateurs et leur décentralisation, ainsi que l'interconnexion de l'Ukraine avec le réseau européen. La campagne du Kremlin visant à briser la volonté de combat des Ukrainiens en transformant l'hiver en arme de guerre a échoué, poursuit Le Temps, qui met en avant les sacrifices des ouvriers qui travaillent parfois au péril de leur vie pour réparer le réseau. Nous avons acquis une solide expérience, se réjouit Volodymyr Zelensky, au point que l'Ukraine a proposé son aide à l'Espagne le 28 avril dernier, alors que la péninsule ibérique, rappelle Le Temps, était frappée par un blackout sans précédent.
Et puis un peu plus de 24 heures après l'élection du nouveau pape, de nombreux journaux s'attardent encore sur la personnalité de Léon XIV, mais aussi sur ses pouvoirs.
Quels sont les vrais pouvoirs du pape, interroge La Croix, au-dessus d'une photo montrant Léon XIV sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, souriant, les yeux levés vers le ciel. Est-il un monarque absolu, interroge encore le quotidien français. Pas vraiment, pour l'Église catholique, nous dit-on, la primauté du pape doit s'articuler avec la collégialité épiscopale, les évêques, successeurs des apôtres, et le pape, leur chef. Le pape peut-il changer le dogme? Interroge aussi La Croix, selon laquelle le pape ne peut pas tout faire, et notamment changer le dogme. Car, nous explique le journal catholique, le Concile Vatican I précise que le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance, il garde sainte et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres. Enfin, la question de savoir si les catholiques peuvent contester la parole du pape, cela dépend de quoi l'on parle. Ainsi, précise La Croix, il faut examiner le statut de la parole. Entre l'encyclique et la conférence de presse dans l'avion, la parole pontificale n'a pas la même force. Elle est toutefois de la plus haute importance, puisque l'arme principale du pape est la parole, entend-on souvent dans les couloirs du Vatican, raconte La Croix. L'image a aussi son importance. Le journal nous rappelle ainsi celle de François, quelques mois après son élection, jetant une couronne mortuaire au large de l'île de Lampedusa, en mémoire des nombreux migrants ayant péri en traversant la Méditerranée.
La revue de presse, Catherine Potet, merci beaucoup.
RFI à Berlin, 96.7 FM.
En Allemagne, après le chancelier Friedrich Merz, élu dans la douleur mardi, il est désormais le deuxième homme fort du pays. Lars Klingbeil est devenu cette semaine vice-chancelier et surtout ministre des Finances, un poste clé. Il est aussi notre Européen de la semaine. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Il a réussi à 47 ans seulement à se hisser au premier rang du pouvoir.
Oui, Lars Klingbeil, c'est l'étoile montante du SPD, le parti social-démocrate, dont il a gravi tous les échelons pour se hisser à sa tête il y a 3 ans. C'est une personnalité qui en impose, y compris physiquement. Il est très grand, 1m96, et derrière son sourire avenant, c'est un redoutable animal politique, prévient Patrick Moreau, spécialiste de l'Allemagne.
Il est très très difficile à classer. Un de mes amis l'a défini comme un nounours. C'est vrai qu'il est un petit peu rond, un petit peu sympathique, il s'exprime très bien, il sourit beaucoup, mais c'est quelqu'un d'une volonté, si vous voulez, de puissance qui est quand même assez étonnante.
Volonté de puissance qui a amené Lars Klingbeil à négocier donc avec les conservateurs du nouveau chancelier Friedrich Merz le poste clé de ministre des Finances au sein de la coalition gouvernementale.
Et il a bien négocié Lars Klingbeil parce qu'il a subi avec son parti, le SPD, une défaite cuisante aux législatives de février dernier, 16% seulement des suffrages, mais il a réussi à tourner la situation en sa faveur. C'est un fin stratège, selon Étienne Dubslaff, maître de conférence à l'université Paris-Nanterre et spécialiste du SPD.
Il a joué assez finement, effectivement. Il porte une lourde part de la défaite de la social-démocratie. Mais il a réussi implicitement à faire porter le chapeau à sa co-présidente Saskia Esken. Et c'est a réussi à s'installer comme l'homme fort du parti au sortir des élections.
Lars Klingbeil s'est débarrassé de la vieille garde du parti. Il veut représenter une nouvelle génération. Son parcours, il est assez classique. Il commence sa carrière auprès de l'ancien chancelier sociodémocrate Gerhard Schröder, est élu député pour la première fois à 27 ans. En 2021, il participe à la campagne pour l'élection d'Olaf Scholz. Sinon, Lars Klingbeil vient d'un milieu relativement modeste, nous explique Étienne Dubslaff.
Son père était soldat sous-officier, sa mère était vendeuse, je crois. Ses parents n'ont jamais fait d'études, donc lui oui, par contre, il a fait des études de sciences politiques, qui est la deuxième voie royale pour la politique en Allemagne, derrière les études de droit.
On entend, Muriel, que Lars Klingbeil a donc étudié les sciences politiques. Il n'a pas d'expertise particulière pour son poste de ministre des Finances.
Oui, mais nul doute qu'il saura s'entourer. La question est de savoir quelle politique il va mener. Lors de sa première prise de parole mercredi, il a promis de remettre l'Allemagne en récession sur le chemin de la croissance en attirant les investissements privés et de présenter un budget d'ici à l'été. Il pourra se servir du fonds exceptionnel de 500 milliards d'euros voté par les députés en mars pour rénover notamment les infrastructures. Va-t-il adopter une politique plus centriste, voire de gauche, comme certains le prédisent, alors qu'il cohabite avec un chancelier conservateur? Pour ce fin négociateur, c'est aussi un enjeu personnel, car il voit loin. Patrick Moreau.
Il est très très ambitieux, il veut devenir chancelier, c'est tout à fait évident. Et maintenant qu'il a pratiquement éliminé toute la vieille garde, il a quasiment tout le pouvoir au sein du SPD, il va monter sa propre équipe et il va préparer le parti à la prochaine grande confrontation qui, à mon avis, se produira beaucoup plus tôt que les gens ne l'imaginent.
Alors le nouveau chancelier Friedrich Merz a été élu très difficilement en début de semaine au Bundestag. Il est impopulaire et Lars Klingbeil pourrait en profiter pour avancer ses pions. Rien ne lui fait apparemment peur. Dans une récente interview à la presse allemande, ce gros fumeur en rémission d'un cancer expliquait « On regarde la vie d'une autre manière quand on a été proche du précipice. Cela donne beaucoup de force. »
Muriel Paradon, merci beaucoup.
RFI Matin.
Bienvenue dans le game. Bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour Julien.
C'est l'affaire du moment dans le monde du jeu vidéo. La sortie de GTA 6 est reportée à 2026. Jennifer, dites-nous en plus.
Alors si le jeu le plus attendu au monde a annoncé son report le 2 mai dernier, 4 jours plus tard, il s'est dévoilé un petit peu plus avec une bande-annonce surprise qui n'a pas manqué de faire parler.
Jennifer, pourquoi ce report de la sortie du jeu ?
Eh bien, Rockstar Games, les développeurs de GTA 6, ont annoncé sur les réseaux sociaux vouloir prendre leur temps pour finir le jeu et ainsi dépasser les attentes des joueurs. D'abord, je pense que l'éditeur souhaite éviter de faire subir ce qu'on appelle du crunch à ses employés, c'est-à-dire de leur faire faire des heures supplémentaires obligatoires pendant les développements du jeu. En 2018, le studio avait déjà souffert des rumeurs de 100 heures de travail qui ont terni son image et a depuis revu ses processus pour éviter le crunch sur le jeu Red Dead Redemption 2 à l'époque. Sur un projet d'ampleur comme GTA 6, et même après 13 ans de travail, il est fort probable que ces enjeux restent présents.
Le report de GTA 6 aura aussi un impact sur la globalité de l'industrie du jeu vidéo.
Oui, si vous êtes un studio qui sort son jeu en même temps que GTA, autant jeter l'éponge. Mais avec cette annonce de report, il est probable que les développeurs revoient leur stratégie en avançant ou en retardant leur sortie pour espérer avoir de la visibilité et ainsi gagner des parts de marché. Le CEO de l'éditeur Electronic Arts a par exemple exprimé devoir revoir la sortie du nouveau Battlefield qui était prévu autour de mars ou avril 2026. Et puis de l'autre côté, ça laisse un petit peu plus de chance à des jeux qui ont déjà marqué l'année, un peu comme Clair Obscur Expedition 33, Oblivion, Assassin's Creed Shadows ou encore le prochain Ghost of Yotei, d'espérer recevoir le prix du jeu de l'année. « En plus de ça, GTA 6 reste un mastodonte qui aura un impact considérable sur l'avenir financier de l'industrie du jeu vidéo. Il pourrait bien être le premier jeu à se vendre à 100$ et donc marquer un tournant pour le prix des jeux vidéo. L'année de sa sortie sur PS5 et Xbox Series sera également un soulagement pour les consoles qui souffrent actuellement d'une baisse de revenus. Enfin, si GTA 5 s'était vendu à plus d'un milliard d'exemplaires en 5 jours après sa sortie, on peut imaginer que GTA 6 atteigne les mêmes chiffres en seulement 24 heures. Il est possible qu'on ait affaire effectivement au jeu le plus important de l'histoire du jeu vidéo, et son impact financier sera si considérable qu'il pourrait faire grimper les revenus de l'industrie en 2026.
Si toutefois il sort effectivement le 26 mai comme annoncé dans la bande-annonce.
Oui, rien n'est moins sûr, hein. Je pense que si Rockstar a besoin d'encore plus de temps, eh bien il prendra bien quelques mois de plus pour peaufiner GTA 6. D'ailleurs, avec la dernière bande-annonce de 3 minutes, on ne peut que noter qu'ils ont déjà mis la barre très très haute. Hein. Vous y verrez des graphismes époustouflants qui promettent d'établir un nouveau standard visuel pour les prochains jeux. On note une attention aux détails, avec des textures et des effets de lumière et d'ombre très avancés, mais aussi un récit qui s'annonce déjà captivant. Mais il faudra attendre un an de plus pour le découvrir.
Au moins. Merci Jennifer Lufaux. À la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
À bientôt 7h30, en temps universel, bientôt le journal sur RFI, mais d'abord l'heure de notre reportage culture, avec aujourd'hui un collectif de Cardiff au Pays de Galles. Voilà plus de 10 ans que le groupe arpente les scènes des festivals, comme aujourd'hui le Focus Wales dans le nord du pays. Afro Cluster vient y jouer son premier album, The Reach, un concentré de groove et d'engagement à son image, c'est ce que nous dit José Marinho, notre envoyé spécial sur place.
Afro Cluster est un collectif qui mélange l'afrobeat, le jazz et la musique ouest-africaine, mais aussi le hip-hop.
Toomey Williams est la voix et l'âme d'Afro Cluster depuis 2011. Afro Cluster, un collectif venu de Cardiff, 9 musiciens et autant de nationalités que de groove. Il mêle funk des années 70, afrobeat, jazz et rap. Sa musique, c'est pas juste un son, c'est un dialogue entre les continents, entre les époques, entre les peuples.
Afro Cluster, c'est une conversation vivante, je dirais, un échange entre plusieurs cultures. Il s'agit de partager des expériences vécues, de mon parcours personnel, du Nigeria jusqu'au Pays de Galles, en passant par les Caraïbes et l'Angleterre. Quand nous nous réunissons dans la création artistique, c'est un peu comme un carrefour culturel. Il y a une vraie énergie. Et cela se reflète dans les performances, dans la lumière. L'amour de la musique, pour moi, c'est ça. Aimer et se faire aimer.
Dans un monde qui construit des murs un peu partout, Afro Cluster fait exactement l'inverse. Il fabrique des ponts avec son style métissé, joyeusement engagé. Et au festival Focus Wales, c'est simple, ça réveille tout, la foule et même les consciences.
Dans notre groove, il y a un message de respect pour les migrants et un appel à l'unité. Notre musique se présente aussi comme un défi politique. Mais est-ce que les grands de ce monde sont prêts à un échange culturel ? En attendant, nous apportons une réponse avec notre musique et une ambiance festive à ce monde chaotique, et c'est déjà le message.
Faire bouger les têtes, c'est une chose, se faire entendre quand on fait une musique aussi libre, c'en est une autre. Alors Toomey Williams s'adapte.
Le marché du jazz, la scène, le groove, c'est comme le jeu vidéo Resident Evil. Chaque année, une nouvelle version, un nouveau défi, mais on y revient, parce que c'est ça, être fidèle à un son, à une vibration. Ce son-là, il nous reflète, c'est notre miroir, il dit qui on est. Notre parcours, nos passions, tout cela construit notre identité de groupe. C'est l'expérimentation de la liberté. Face au chaos, on propose la lumière. Et on parle, oui, on parle vraiment au monde, à ceux qui aiment.
Afro Cluster ne cherche pas à rentrer dans les cases, il les fait sauter en musique. José Marinho, Pays de Galles, RFI. Come on.
my super style sex when we started this play. Complex like dopamine, I burned so discreet, didn't take notice of the sea. Feeling what I like was a weak.
Un extrait de l'album The Reach du groupe Afro Cluster. Et José Marinho qui continue de nous faire vivre le festival Focus Wales au Pays de Galles. Le journal dans une minute sur RFI, à tout de suite.
Carrefour du Maghreb,
sous le signe d'Averroès.
Juliette Rangeval.
Grand savant du XIIe siècle, commentateur d'Aristote, cette figure symbolique du dialogue entre l'Orient et l'Occident a-t-elle encore un sens aujourd'hui? Entre les deux rives de la Méditerranée, comment parler du racisme, de l'immigration ou de l'actualité?
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI. Un jour au village, Penaï Traoré.
Cabane perchée sur l'eau, pirogue naviguant entre les plantes, derrière ce décor de carte postale se cache une autre réalité. Nous nous intéressons cette semaine au problème d'eau potable dans les villages lacustres au Bénin. Nous en parlerons avec notre invité André Todier, le maire de la commune de Soava.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tout à l'heure à 13h10 TU sur RFI.